J'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu?
Non, non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu! Tu as perdu! Tu comprends? Tu ne joues plus!
Bonjour à tous et bienvenue sur Aléa, notre chronique sur le jeu et la philosophie. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble une phrase énigmatique trouvée sur le quatrième de couverture d'un ouvrage de Bateson, un anthropologiste britannique qui s'est, parmi ses nombreuses études, intéressé à la question du jeu. Je vous la lis et si vous y comprenez quelque chose, c'est que vous êtes vraiment balèze. Attention! Le jeu est un succès d'année du paradoxe d'Épiménide. Alors, ça vous dit quelque chose? Je vous la relis. Le jeu est un succès d'année du paradoxe d'Épiménide. Personnellement, j'ai rien compris. Alors allons-y, mot par mot. Le jeu, jusqu'ici tout va bien, est un succès d'année. Là, on ouvre le dictionnaire et on trouve qu'un succès d'année, c'est quelque chose qu'on peut substituer à autre chose, mais qui a globalement les mêmes propriétés. C'est comme si je vous disais que, contre l'atout, le miel est un succès d'année des bonbons à la menthe. Il a la même fonction. Continuons donc sur la suite de la phrase. Le jeu est un succès d'année du paradoxe d'Épiménide. C'est quoi ce paradoxe d'Épiménide? Épiménide, en fait, c'était un poète et un chaman crétois de l'Antiquité. Et on rapporte qu'il aurait dit un jour « les crétois sont des menteurs », sachant que lui-même était crétois. Alors mentait-il ou ne mentait-il pas? C'est de là d'où vient le paradoxe, qui a été commenté par bien d'autres après lui. Un paradoxe qu'on appelle parfois aussi le paradoxe du menteur, et il peut être énoncé de la manière suivante. Si une personne déclare « je mens », si c'est vrai qu'il ment, alors ce qu'il dit est faux, c'est-à-dire qu'il ne ment pas. Or, il dit l'inverse de ce qu'il a fait, donc il ment. Donc, ça tourne en rond. De la même manière, si ce qu'il dit est faux, c'est-à-dire qu'en réalité il ne ment pas, mais en disant « je mens », il y a un décalage qui se crée, ce qui est contradictoire. Voilà donc en quelques mots en quoi consiste le paradoxe d'Épiménide. Quand on dit « je mens », c'est quelque chose qui est à la fois vrai et à la fois faux, d'où le paradoxe. Nous avons donc tous les éléments en main pour comprendre cette phrase de Bateson. Le jeu est un succès d'année du paradoxe d'Épiménide. Je ne sais pas vous, mais pour moi, ça fait toujours pas sens. Alors essayons de plonger un peu plus en profondeur dans la pensée de Bateson pour essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire à travers cette phrase énigmatique. Cette phrase, on la retrouve en fait dans un ouvrage qui s'appelle « Vers une écologie de l'esprit ». Où Bateson essaye, entre autres, de développer une réflexion sur la nature et la place du jeu dans notre société. Pour ce faire, il va s'intéresser au comportement des animaux, dont il espère tirer des observations qu'il pourra ensuite généraliser au comportement humain. Bateson va regarder ce qu'il identifie comme des jeux chez les animaux. Par exemple, le fait qu'un chien vous mordille, ou qu'il essaye de tirer sur un bâton que vous tenez dans la main, ou encore d'autres comportements, comme chez les singes, qui miment entre eux des situations de combat ou de poursuite, ou qui vont se faire des grimaces. Ces jeux animaux, Bateson va essayer de les analyser du point de vue de la communication, ou plus exactement de la dimension symbolique de la communication. Selon lui, en fait, les jeux animaux, comme ceux des humains d'ailleurs, passent par un mode de communication qui utilise un ensemble de gestes et d'attitudes qui signifient quelque chose d'autre. C'est un mode de communication subtil qui vient s'ajouter par-dessus les modes de communication habituels. Par exemple, un singe qui mime, pour s'amuser, un geste de combat est en même temps bien effectivement en train de faire ce geste, celui de frapper, et en même temps en train de faire appel à la symbolique et à la signification du geste, puisqu'il ne frappe pas réellement, il s'agit d'un jeu. Je vous lis sur ce point un témoignage de Bateson lui-même. Il raconte « Ce que j'ai vu au zoo, ce n'était qu'un phénomène banal, connu par tout le monde. J'ai vu jouer deux jeunes singes. Autrement dit, deux singes engagés dans une séquence interactive dont les unités d'action, ou signaux, étaient analogues mais pas identiques à ceux du combat. Il était évident, même pour un observateur humain, que la séquence dans sa totalité n'était pas un combat. Il était évident aussi que pour les singes eux-mêmes, ceci était un non-combat. Or, ce phénomène, le jeu, n'est possible que si les individus qui s'y livrent sont capables d'un certain degré de métacommunication, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'échanger des signaux véhiculant le message « ceci est un jeu ». Ainsi, lorsque le singe imite un coup donné, il envoie un signal signifiant « le signe de frapper n'est pas un vrai coup, mais il faut le considérer comme un vrai coup. Sinon, il n'y aurait pas de jeu, on ne pourrait pas se prendre au jeu. » Donc la communication du singe, son geste, vaut à la fois pour un coup, mais n'en est pas un. Le jeu animal, mais c'est également vrai pour tout jeu humain, et particulièrement les jeux de rôle ou de bluff, le jeu implique une sorte de communication où nous effectuons des gestes qui veulent dire quelque chose dans le cadre du jeu, mais qui veulent aussi dire d'autres choses dans un autre cadre. Si des enfants jouent à l'épée, par exemple, un coup d'épée porté essaye d'imiter le coup d'épée réel. Mais il signifie en même temps, du point de vue du jeu, autre chose, et peut-être même tout l'inverse, puisqu'on ne cherche pas à éliminer un ennemi, mais à rentrer en connivence avec un ami dans un combat factice. Donc, pour que le jeu existe, il faut que ces deux niveaux de référence existent, celui du jeu et celui du non-jeu. C'est un peu comme cette phrase paradoxale d'Épiménide qui dit « je mens ». C'est à la fois vrai et faux en même temps. Pour que le jeu existe, il faut que le joueur soit à la fois et en même temps conscient que ce à quoi il se réfère, que ce à quoi se réfère le jeu, est une réalité qui n'est pas un jeu, mais que le jeu lui-même implique un décalage subtil avec cette réalité. Un décalage fait de gestes qui miment la réalité et ce pourquoi les gestes valent pour normalement, sans toutefois être cette réalité. Le jeu mélange donc continuellement des niveaux de communication qui font référence au jeu et au non-jeu. Donc, nous en arrivons à la conclusion que le jeu est un succès d'année du paradoxe d'Épiménide. Il montre, comme le paradoxe d'Épiménide, que pour exister, il doit confondre en lui deux niveaux de communication qui se superposent, celui du jeu et du non-jeu. Et le joueur doit être en permanence conscient de ces deux niveaux de communication pour que le jeu existe.
Ah oui, mais j'en savais rien, d'accord ? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer ?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer ? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Lui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu ?
Non, non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages, des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu ! Tu comprends ? Tu ne joues plus.